France Inter.
Aujourd'hui, non, les Mayas n'ont pas disparu. Raconté par
Chloé Andrieux, archéologue, chercheuse au CNRS, au Laboratoire Archéologie des Amériques.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Sur les hauteurs couvertes de brume du Chiapas au sud du Mexique, une langue ancienne continue de résonner dans les marchés, les écoles communautaires, les chants et les cérémonies. Cette langue est maya, comme celle que parlent encore chaque jour plus de 6 millions d'hommes et de femmes du Yucatan au Guatemala, du Belize jusqu'aux États-Unis. Non, les mayas n'ont pas disparu, ils n'ont d'ailleurs jamais disparu. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif occidental, leur nom est souvent associé à des ruines enfouies sous la jungle, à un peuple mystérieux éteint à des prophéties apocalyptiques. Ce malentendu ne date pas d'hier. Dès le XVIIIe siècle, les premiers explorateurs européens, confrontés au temple majestueux d'une civilisation qu'ils refusaient de croire autochtone, imaginèrent qu'elle devait venir d'ailleurs. Le récit d'un effondrement s'est peu à peu imposé. Les cités majestueuses d'une période classique abandonnée au IXe siècle ont été recouvertes par la forêt. Leur silence, leur splendeur déchue ont nourri un puissant imaginaire. Au fil des siècles, les Mayas ont donc survécu aux guerres, aux famines, aux massacres de la colonisation espagnole, aux épidémies. Et aujourd'hui, ils réinvestissent leur histoire, leur langue, leur savoir. Des écrivains, des enseignants, des musiciens, des activistes se revendiquent Mayas. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Chloé Andrieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous qui publiez donc Les Mayas n'ont pas disparu chez Alary Éditions. Livre très intéressant parce qu'il vient bousculer nos idées reçues sur ce peuple que l'Occident a totalement fantasmé visiblement. Les Mayas n'ont pas disparu, alors pourquoi cette idée s'est-elle autant répandue ?
Je pense que c'est dû à la fascination qu'exerce précisément cette image de pyramide dans la brume, mangée par la végétation, qui depuis très tôt, dès le 19e siècle, a été érigée en une sorte de symbole de la fin des sociétés, un symbole d'un monde post-apocalyptique et vidé de ses habitants. Et comme assez vite on a associé ces vestiges-là, en particulier aux Mayas, on a vite fait de corréler l'abandon de ces villes à la disparition pure et simple de leurs habitants.
Et c'est ça qui vous a intéressé finalement, l'imaginaire occidental qui a fait disparaître les Mayas alors qu'ils sont bien vivants ?
Ce qui m'intéressait, c'est le contraste entre le fait que, d'un côté, le mot Maya, c'est un mot qui n'est jamais neutre, qui suscite toujours des fascinations, qui évoque toujours énormément de représentations des jeux vidéo, des films, des romans d'aventure. Et pour autant, ce qu'il évoque est toujours très éloigné de la réalité de ce que mes collègues et moi-même étudions sur le terrain, et plus encore de la réalité de ce que vivent les millions de personnes qui parlent Maya aujourd'hui.
C'est quoi votre terrain, justement, vous, en tant qu'archéologue, alors, autour des Mayas ?
Donc moi, je travaille dans la région de Cancún, qui est un site au Guatemala et qui présente l'intérêt d'avoir été l'une des premières cités à avoir été abandonnée.
Et justement cet imaginaire, Chloé Andrieux, ces temples abandonnés, ce peuple mystérieux, cette civilisation qui s'effondre, ça a nourri votre propre imaginaire, votre propre vocation d'archéologue aussi, vous le racontez dans le livre.
Oui, comme beaucoup de monde avant moi, je pense, j'ai été happée par une de ces images très stéréotypées de pyramides dans la jungle. Je pense, avant ça, j'étais profondément amoureuse d'Indiana Jones étant enfant, donc je pense que j'étais totalement conditionnée à être happée par ces images-là. Mais c'est justement ce qui m'intéresse, c'est que je pense que derrière le métier d'archéologue, il y a toujours une rêverie. Et cette rêverie, elle a une histoire. Et c'est important d'étudier cette histoire, puisqu'en l'occurrence, c'est une histoire qui repose sur une idée de disparition et de mystère qui finalement contribue à nier les millions de personnes que sont les Mayas d'aujourd'hui.
Et c'est quoi justement votre travail d'archéologue ? Alors ça consiste en quoi ? Essayer de nettoyer cette brume précisément et d'éclairer autrement
Dans les très grandes lignes, pour ne pas rentrer dans le détail des analyses chronologiques qu'on essaye de faire, mais on essaye de travailler sur... Puisque le Cancún se trouve à la frontière entre les hautes terres et les basses terres mayas, Il se trouve que la zone à avoir été abandonnée en premier, ce sont les basses terres. Et que quand les Espagnols arrivent, la zone la plus peuplée, ce sont les hautes terres. Donc ça montre qu'il y avait visiblement des mouvements de population, et c'est ceux qu'on essaye de traquer et qui permettent justement d'établir la continuité directement avec les populations actuelles.
6 millions de personnes dont parlent encore aujourd'hui une langue maya sur la planète. Ça fait combien de langues différentes d'ailleurs pour les mayas? Est-ce qu'on le sait exactement?
29 langues différentes.
29. Cette diversité, elle existait déjà dans le passé ou pas?
Oui, on en est sûr. Oui. Même si une seule langue était utilisée pour l'écriture, qui était une sorte de langue de cours, langue de prestige, oui. Qui est celle que l'on lit sur l'épigraphie.
Et alors, ils habitent tous les Mayas aujourd'hui?
Alors,
je parlais des États-Unis dans le texte d'introduction.
Oui, ils vivent dans le sud du Mexique, le Belize, le Guatemala et le Honduras. Au Guatemala, ils représentent même 60% de la population, donc c'est énorme. Mais il y a plusieurs centaines de milliers de Mayas qui ont aussi immigré aux États-Unis ou même au Canada, mais qui maintiennent des liens avec leur communauté d'origine.
Ouais. Ce qui est étonnant, et on le réalise vraiment en vous lisant, c'est que les Mayas, finalement, sont toujours évoqués au passé. C'est très rare qu'on leur consacre des livres ou des expositions pour raconter leur vie aujourd'hui.
Ou quand on le fait, c'est en passant. C'est généralement la dernière page ou le dernier feuillet de l'exposition. Personne ne dit jamais, aucun chercheur ne dit jamais qu'ils ont disparu. Mais par contre, on met toujours l'accent sur la période du passé.
Ouais, donc on entretient quelque chose aussi toujours.
Exactement, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce livre à rebours, même si je suis archéologue, je parle finalement assez peu d'archéologie, et je me suis intéressée à la manière avec laquelle on les a fait disparaître narrativement.
À quoi elle remonte alors l'histoire maya, si on va aux racines un petit peu?
Il faut remonter à 1000 avant Jésus-Christ, à peu près, pour voir des premiers regroupements de population autour de villages, puis de grands centres civico-cérémoniels.
Dans des régions particulières d'Amérique du Sud?
Là où on a les dates les plus anciennes, pour le moment, ça serait le Tabasco au Mexique.
Oui.
Et qui progressivement deviennent des villes, des cités de plus en plus peuplées.
Et à quel moment ils commencent à édifier des structures monumentales comme ces pyramides qu'on a tous en tête?
Alors, des structures monumentales assez tôt, dès 800 avant Jésus-Christ, on a cette découverte d'un énorme monument, mais des pyramides telles qu'on les conçoit maintenant, ce serait à partir du près 250 avant Jésus-Christ, par exemple. Mmh.
Ça, c'est l'époque classique, justement?
Pré-classique.
Pré-classique.
Ouais, il y a déjà un pré-classique, avec des cités-états assez centralisées, en fait, et qui s'effondrent, qui connaît un premier effondrement au premier siècle de notre ère.
Mais c'est quoi? C'est des petites cités-états, précisément?
Oui, ce sont des petites cités-états.
Donc elles sont indépendantes les unes des autres, plutôt?
Exactement. Ouais. Que l'on connaît mieux pour l'époque classique, puisque c'est le moment où ils utilisent le plus l'écriture et que l'on sait déchiffrer. Et donc, on a une assez bonne idée de la géopolitique de l'époque classique, donc entre 250 et 950 après Jésus-Christ. Là, on connaît le nom des rois, des reines, des mariages, des alliances.
Et comment ça se passe entre les différentes cités, alors?
Donc, ce sont des cités-états qui se font la guerre en permanence, mais qui s'allient elles, selon les circonstances. Elles sont assez, assez belliqueuses.
Ouais. Vous dites que chaque société se distingue par une écriture, des calendriers, une architecture d'une grande richesse. Donc, il y a déjà vraiment une culture, une civilisation très puissante,
Oui, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a décidé à peu près dans les années 50 que cette période-là était l'apogée de la civilisation maya, et on l'a appelée classique, on l'a passée au cœur de la chronologie, parce qu'on a été fascinés très tôt par l'art et l'architecture de cette époque.
C'est ça, des ingénieurs aussi, parce qu'ils se sont installés, pour certains, dans des régions assez inhabitables, très marécageuses, et pourtant ils ont réussi à construire, c'est ce que vous racontez, tous ces systèmes de champs surélevés pour drainer, et pour permettre à une population assez importante d'être nourrie.
Mais ils arrivaient à nourrir des villes qui pouvaient réunir plusieurs dizaines de milliers d'habitants, là où aujourd'hui des villages peinent à se nourrir avec l'agriculture sur brûlis. Donc vraiment, cette agriculture de champs surélevés, elle était extrêmement efficace.
On va écouter l'extrait d'un documentaire d'Arte en 2022, La chute des rois mayas.
On se trouve au sommet de la pyramide de Kahana. Et voici le palais royal. Le départ de Kahana à la fin de la période classique a été précipité. Un des indices a été la découverte, au niveau de cette porte, du corps d'un très jeune enfant non enseveli, ce qui n'était pas dans les habitudes des Mayas.
Le centre de Caracol a brûlé vers 895, puis il a été totalement abandonné. Peu après, ça a été le tour de toute la ville, qui est restée à l'abandon pendant 1000 ans.
Ça, c'est Diane et Arlene Chase qui sont archéologues. Alors, parlons justement du collapse, l'effondrement maya, parce que c'est un phénomène historique qui a fait l'objet d'énormément de commentaires, Chloé Andrieux. D'abord, est-ce que les sources scientifiques sont nombreuses sur l'effondrement?
Le problème, c'est que ces sociétés ont cessé... les textes monumentaux, qui sont les seuls textes qui nous soient parvenus, ont cessé d'être
diffusés
à mesure que les institutions politiques qui les sous-tendaient se sont effondrées. Donc on perd l'écriture pour étudier cette période en particulier.
Oui.
Par manque de chance, ça correspond à un plateau C14, ce qui fait qu'on peut mal dater.
Enfin, un plateau C14, dites-nous de quoi il s'agit. Parce que
c'est un peu technique, mais disons que le carbone 14 se dégrade, non pas de façon totalement régulière, il fait des plateaux pendant lesquels on ne peut pas dater précisément d'une période à l'autre. Donc, c'est pas de chance, ça tombe à peu près à ce moment-là aussi.
Ouais.
Donc il y a un certain nombre de problèmes pour étudier ces périodes. On arrive quand même à reconstituer les faits grâce notamment aux dernières inscriptions. On traque les toutes dernières inscriptions et on arrive à voir l'effet domino. On peut aussi voir les traces de construction abandonnées en cours. Donc c'est plus par l'étude de ces silences qu'on arrive à aborder cette période.
Et ça nous parle d'un collapse alors ou pas? Parce que le collapse, ça désigne quoi exactement?
Un effondrement, techniquement, c'est une perte rapide de complexité sociale associée à une baisse démographique soudaine. Et oui, c'est tout à fait ce qui s'est passé, sauf que ça ne s'est pas passé forcément de la manière avec laquelle on le diffuse généralement. Donc à partir du 9e siècle, ces petites cités classiques traversent une crise terrible. Une crise dont on sait qu'elle était due en partie à des causes environnementales. On le voit dans le registre archéologique, il y a des séries de sécheresses courtes et répétées qui ont dû vraiment...
Accentuer aussi le phénomène
ou
provoquer le phénomène.
Accentuer le phénomène et qui en plus elles-mêmes étaient sans doute accentuées par la déforestation que l'on voit aussi augmenter au fur et à mesure de l'époque classique. Donc ces sécheresses, elles ont dû les fragiliser parce que c'était des sociétés qui reposaient énormément sur la culture du maïs. Mais c'est sans doute pas les seules raisons. Il y a une nette augmentation des guerres, par exemple, que l'on peut voir à travers l'épigraphie, à travers le 8e siècle, qui a dû aussi beaucoup fragiliser ces petites cités-états. Et puis, il y a très probablement des raisons plus structurelles qui tiennent au fait que c'était des systèmes politiques, en fait, assez fragiles, dans lesquels le roi devait sans cesse montrer, réasseoir son autorité en construisant des nouvelles pyramides, en étant toujours plus victorieux sur ses voisins et en le faisant savoir. Si bien que c'était des systèmes politiques qui reposaient sur une course en avant de manifestations de prestige et qui donc en quelque sorte portaient peut-être aussi en elles leur propre fin.
Mais pour autant, cet effondrement n'a pas entraîné la fin des sociétés mayas, c'est ce que vous rappelez. Hein. C'est presque, vous dites d'ailleurs, un choix esthétique que d'accorder plus importance à la période dite classique qu'aux époques suivantes, d'accord? Mais effectivement, il y a eu ce prolongement qu'on a totalement oublié aujourd'hui. Hein.
Disons que suite à cet effondrement des institutions politiques, c'est deux choses distinctes. Progressivement, les villes ont été abandonnées, mais ça n'a pas été immédiat, en tout cas pas partout. C'est quelque chose qui s'est étendu sur presque 150 ans. Et suite à ça, les personnes ont bougé vers le nord et le sud de ce même territoire, où ils ont fondé effectivement d'autres villes, d'autres royaumes, qui pour certains ont perduré jusqu'à l'invasion espagnole. Donc ces sociétés du post-classique, elles sont tout aussi urbaines, elles ont aussi une écriture. Donc on peut dire en rien que cette civilisation, elle a disparu. Effectivement, l'art de cette époque-là est peut-être moins chatoyant que celui de l'époque précédente. C'est pour ça que je dis que c'est sans doute un choix de nature esthétique, mais ça tient peut-être aussi au fait que, justement, les structures politiques qui les sous-tendent ne nécessitaient pas tant d'être montrées comme elles devaient l'être à l'époque classique.
Chloé Andrieux, on va se retrouver dans un instant pour parler des Mayas et donc de ce regard quelque peu fantasmé de l'Occident sur cette société. Et puis nous attendons vos messages, vos questions sur la page de l'émission franceinter.fr et La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Lui, c'est mon père. Il revient d'une cérémonie que des prêtres mayas célébraient pour me protéger. Il craint toujours qu'il m'arrive quelque chose. Tout petit, il m'a appris à respecter cette religion des anciens. Elle est au cœur de mon existence. La culture et les valeurs ne se sont jamais perdues. Il n'y a que l'homme qui puisse se perdre.
Voilà, une voix contemporaine, c'était en 1997 sur France 3, dans un documentaire « Les fils du maïs ». Les Mayas n'ont pas disparu, vous nous le rappelez, Chloé Andrieux, dans votre ouvrage, c'est aux éditions Alary. Un témoignage comme ça, il est important, parce qu'il marque justement le lien ancestral avec cette civilisation et cette société.
Oui, d'autant que ce lien, il est... plus en plus revendiquée par des générations d'intellectuels mayas qui, depuis les années 60 et plus encore depuis les années 80, pensent cette identité, la revendiquent et ont choisi, il y a tout un mouvement qui a choisi de l'ancrer dans ce passé commun revendiqué, idéalisé aussi parfois.
Ce nom maya d'ailleurs, il incarne ça, il incarne cette revendication ou pas ?
Tout à fait, puisque c'est pas du tout un terme par lequel les gens s'auto-désignent naturellement. C'est d'ailleurs un terme dont on ne connaît pas bien l'origine. Hein.
Oui.
C'est pas, on ignore même le terme avec lequel les cités classiques se désignaient en tant qu'entité pan-régionale. On connaît le nom de chacune des cités.
Mais on sait mais quand pas... est-ce qu'il apparaît, ce nom de Maya, ou pas ? On a du mal à le définir.
Il apparaît, on le voit apparaître dans les archives à partir du XVIe siècle, mais au départ comme un terme assez péjoratif pour désigner les personnes d'une région donnée, sans doute les gens qui habitaient autour de la cité de Mayapan.
Mais ça c'est quoi ? C'est les Espagnols,
Espagnols
qui donnent ce nom. Ouais.
Peut-être le reprennent-ils, mais on le voit utilisé de façon assez dépréciative.
Mm-hmm.
Ensuite, il s'étend de manière générale pour désigner les gens qui parlent le maya yucatec, qu'on appelle d'ailleurs encore maya. Souvent, les gens me disent, la seule fois où ils disent « je parle maya », c'est les gens qui parlent yucatec.
Mm-hmm.
Et puis, au XIXe siècle, quand on a commencé à enfin faire un lien entre ces vestiges et les langues parlées autour, il se trouve que le maya yucatec était la langue la plus parlée à l'époque dans ces régions. Et donc, on a associé l'un à l'autre. Donc, on a employé le terme maya pour désigner cette entité culturelle et
géographique. Et vous dites qu'aujourd'hui, effectivement, il est revendiqué par des groupes autochtones. C'était aussi une façon, ce nom, de refuser d'être indien.
Précisément, puisque ce terme qui les a fait lui aussi disparaître, c'est le terme en plus extrêmement mal choisi, hein, puisqu'il vient du malentendu initial au sujet de la nature de la découverte de Colomb, du continent qu'il avait atteint.
Qui pensait être en Inde.
Et ce terme a perduré et il a été utilisé indéfiniment pour désigner la totalité des cultures, des civilisations du continent américain. Donc il a fait disparaître toutes les singularités de ces cultures.
On parlait tout à l'heure donc d'effondrement. C'est véritablement l'invasion espagnole au XVIe siècle qui a été une rupture encore plus radicale que cette idée d'effondrement qu'on peut avoir de la civilisation maya.
Oui, sans aucun doute, c'était bien plus terrible. Même si c'est un processus qui s'est en fait étalé sur là encore plusieurs années, ça tout n'a pas disparu d'un jour à l'autre. C'est évidemment ce qui a été une crise bien plus nette que l'effondrement du IXe siècle. Il n'empêche que les sociétés mayas ont quand même réussi à se réinventer, à se restructurer, grâce notamment au fait qu'elles ont bénéficié, alors malheureusement pas tout de suite, d'un statut juridique spécial qui en même temps les mettait au banc de la société, mais qui en même temps leur accordait une certaine autonomie et surtout des terres communales.
À partir de quand on a commencé à parler d'un mystère maya, alors justement à nourrir l'imaginaire des Occidentaux ? C'était au moment des invasions espagnoles ou c'est venu beaucoup plus tard hein ?
Non, donc les Espagnols savaient l'existence de ces villes, en tout cas un certain nombre d'entre elles, celles qu'ils avaient contribué à détruire, mais d'autres aussi plus au nord, on a des descriptions assez précises. Après, c'est certain qu'ils connaissaient certainement pas celle de la partie centrale de ce territoire, parce qu'ils ne le contrôlaient pas bien, c'est là que s'était vraiment réunie la résistance et c'est là que s'est tenu le dernier état maya qui a résisté jusqu'en 1697, donc c'est très tard. Donc il faut vraiment attendre la fin du XVIIIe siècle pour que la nouvelle de ces vestiges-là arrivent au monde occidental, et même plutôt le 19e pour que sa diffusion se...
Et c'est un moment qui correspond à la découverte justement des vestiges mayas, et c'est ça qui a pu nourrir le mystère aussi autour de cette société, ou pas ?
Je crois que c'est le... Cette arrivée, en gros, la médiatisation de ces vestiges, elle arrive en Europe dans les années 1820. Et là, en fait, elle constitue tout de suite, elle représente un choc. Elle représente un choc pour tous les observateurs de l'époque, parce qu'elle impliquait qu'il y avait une civilisation avec tout ce qu'on estimait être une civilisation à l'époque, c'est-à-dire avec une ville et une écriture surtout, dans le continent qui était vraiment pensé à l'époque comme le continent d'avant la civilisation. Donc très tôt, ces villes, elles ont été pensées comme une anomalie ou comme une contradiction. Et c'est là, à partir de là, que certains observateurs ont choisi d'essayer de résoudre cette anomalie en intégrant ces cités dans en refusant qu'elles puissent être américaines, parce que finalement, ça les obligeait à repenser toute l'histoire du monde, et en les intégrant dans des sortes de nouveaux récits, en les faisant venir de l'Atlantide. C'est quelque chose que l'on voit traîner tout au long du 19e siècle.
Quoi, il y a le mythe de l'Atlantide qui est pris comme...
Oui, qui était d'ailleurs une explication à l'époque très savante, puisque Platon avait dit qu'il y avait une île de la taille d'un continent, puisque ces gens venaient forcément de l'Ancien Monde, étant civilisés. Mm-hmm. Il fallait voir comment ils avaient pu faire ce long trajet avant Christophe Colomb. Étant donné que Platon avait dit qu'il y avait une île continent au milieu de l'Atlantique,
on a fait l'association.
L'association était vite faite. Ouais. Et de là, se sont noués de beaucoup de mythologies qui traînent encore aujourd'hui. Il y a aussi eu la proposition de premier royaume chrétien. Ou d'une 13e tribu d'Israël. Ce sont et puis plus récemment, les extraterrestres. Mais finalement, c'est toutes ces idées reposent sur ce même refus, finalement, d'accepter que l'Amérique, le nouveau continent, le nouveau monde n'était pas si neuf que ça, qu'il n'était pas neuf du tout même, qu'il avait en fait une longue histoire totalement indépendante de l'Europe. Ouais. Et c'est de cette fascination-là, de ce refus d'accepter ça, que sont nées toutes ces mythologies qui leur collent encore à la peau aujourd'hui.
Ouais. Parler de l'ancien monde, aujourd'hui, on parle de l'Europe. Hein. C'est une erreur historique, selon vous, d'ailleurs. Il faudrait qu'on corrige les termes.
Oui, tout à fait. Je pense que ça nous empêche de penser, en fait. Mmh. Et ça reste quelque chose de très politique. On le voit dans le fait
Ça nous empêche de rester dans nos imaginaires aussi, donc de rester dans le fantasme,
exactement.
Dans le mythe. Hein.
Et évidemment,
on adore ça.
Exactement. Il est si précieux. On a été tellement
c'est toujours
bercés
la même,
de
c'est toujours la même histoire. Hein. Aujourd'hui, l'archéologie, elle bénéficie de nouvelles technologies qui ont aussi permis de donner un nouvel éclairage aussi sur cette civilisation maya, avec des technologies comme le LIDAR qui permet de cartographier la végétation. C'est-à-dire qu'avec un avion et ce laser, on peut vraiment découvrir ce qu'il y a sous les arbres. Et c'est ce qui permet aussi de reconstituer des villes entières hein, de l'époque maya.
Oui, c'est parlant de découverte de cités mayas, le LIDAR est sans doute l'événement scientifique le plus important ces dernières années, puisqu'il change totalement la donne. Maintenant, on peut voir à travers la végétation, on peut tout cartographier. C'est évidemment absolument merveilleux dans l'ère maya, où la majorité des vestiges sont dans la forêt, à ceci près que c'est pas tant pour découvrir des nouvelles cités, comme c'est souvent médiatisé, mais plutôt pour comprendre le fonctionnement et l'étendue des villes que l'on connaît déjà, et dont on a parfois encore du mal à comprendre quand s'arrête une, quand commence une autre, puisque c'est un maillon assez lâche de structures.
Mais ça, ce sont des découvertes importantes aussi, qui ont réécrit toute cette histoire.
Bien sûr, et qui nous ont permis de comprendre que c'était pas juste des centres, de faire vivre ces gens d'ailleurs, de penser que c'était pas juste des prêtres qui pratiquaient des rituels sur des pyramides, mais qu'il y avait bien des véritables villes avec des champs surélevés, des routes, autant de choses qu'on voyait, qu'on avait beaucoup plus de mal percevoir.
Le 19e, encore un petit pas en arrière, puisque vous racontez que finalement il y a eu ces explorateurs occidentaux qui sont arrivés sur place, qui redécouvrent donc les Mayas. Il y a eu des Américains, il y a eu un Français, Jean-Frédéric Waldeck, vous racontez son histoire. Et puis vous dites bien quand même que tous ces voyageurs qui découvraient les sites mayas ne revenaient jamais les mains vides. Il y a tout un chapitre sur les objets aussi qu'on a ramenés, parce que les négociants développent des réseaux d'échanges très très importants. Et donc il y a des œuvres qui sont très recherchées.
Oui, cette histoire de découverte, c'est aussi une histoire de pillage et de destruction, puisqu'à chaque fois, tout le monde emporte avec... Alors maintenant, il y a des législations, mais à l'époque de ces premiers explorateurs, on y allait facilement, on partait avec une jambe en stuc, un buste. Et toutes ces œuvres sont en Europe. Et puis, avec le temps, à mesure que cet art est devenu à la mode, s'est développé aussi tout un marché de l'art. Donc c'est un art d'une grande valeur, mais qui repose d'ailleurs, encore une fois, sur une idée de négation. C'est un art sans créateur. Et où ces collectionneurs, c'est l'œil du collectionneur qui leur donne la valeur. C'est pas le créateur.
C'est pas la reconnaissance finalement
la reconnaissance
de celui qui est
à
l'origine de cette œuvre. Le 21 décembre 2012, un cataclysme mondial nous était annoncé par les Mayas. Je pense que beaucoup d'entre nous s'en souviennent. On va revenir sur cet épisode dans un instant avec vous, Chloé Andrieux, et puis vous répondrez aux questions et aux messages qui arrivent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Quand on est arrivé donc sur ce site, on a pu rapidement découvrir à peu près 600 structures qui constituent en fait les zones résidentielles où vivait la plupart de la population de la cité. Donc avec toute une série de temples, de pyramides, de places principales, de palais, et qui nous raconte en fait l'histoire politique et dynastique de Nachtoun. Et à l'heure actuelle, puisque chaque année on découvre des monuments supplémentaires, on a à peu près 70 stèles et hôtels qui sont répertoriés dans la cité.
La voix de Philippe Nondedeo avec ce projet Nachtoun du CNRS. C'était un documentaire Arte en 2016. Chloé Andrieux, vous avez travaillé d'ailleurs sur ce projet, qui se poursuit d'ailleurs.
Oui, oui, je crois qu'ils reviennent tout juste de terrain.
Donc au Guatemala.
Au Guatemala aussi, mais plus au nord, à la frontière avec le Mexique.
Quel est l'intérêt d'ailleurs de ce site par rapport à celui que vous étudiez, vous, plus au sud ?
Alors, il y en a plusieurs. L'un des intérêts de ce site, c'est pour, qui travaille actuellement, c'est plutôt la période classique ancien, un moment où il y a une invasion, a priori, de gens du Mexique central.
Oui.
Et puis aussi, c'est un site qui a perduré assez longtemps après la chute du pouvoir. C'est-à-dire que là, c'est ce qui apparaît dans plusieurs sites, c'est-à-dire que le palais est abandonné, mais les gens ne quittent pas leur ville pour autant. Mmh. Il se passe près d'une centaine d'années avant que ça ne se passe. C'est intéressant.
Revenons à ce 21 décembre 2012, cataclysme mondial, c'est l'apocalypse hein, qu'on nous annonce, prédite par les Mayas avec un enchaînement de calamités suffisantes justement pour entraîner une fin du monde. Alors c'est incroyable parce que la folie s'est emparée de tous ceux qui voulaient croire à la fin de cette histoire. Hein. À l'époque, vous faisiez quoi ? Vous étiez déjà en activité ?
Oui, oui.
Ouais.
Et je crois que ça a dû être à l'origine de l'idée de ce livre parce que j'ai été absolument fascinée par... Par ce qui s'est passé, puisque à l'origine, donc, tout est parti d'une lecture d'une date réelle, hein, qui effectivement en calendrier grégorien donne 21 décembre 2012, mais à aucun moment ça n'impliquait que ce soit la fin du monde, c'est juste la date. D'ailleurs, on a des dates bien plus postérieures encore qui le prouvent. Mais ça a été monté en épingle par certains mouvements New Age, transformé en prophétie. Et là, l'ampleur de ce que ça a donné a été fascinante pour moi, puisque d'un côté, ça a donné lieu à des tonnes de manifestations de culture pop. Hein, un clip de Britney Spears où on voit le compte à rebours vers le 21 décembre. Évidemment, une superproduction hollywoodienne 2012. Et puis, surtout, des manifestations religieuses partout dans le monde, d'une ampleur telle que le Vatican a quand même dû se prononcer sur la question. Et donc, ce qui s'est passé en 2012, je pense que ça a en fait révélé la puissance précisément de cet imaginaire associé aux Mayas, que l'on associe toujours à une sorte de voix mystérieuse venue du fond des âges, et à qui on a attribué peut-être d'autant plus d'autorité pour nous parler de fin du monde et d'effondrement, enfin de fin du monde, qu'on les avait en fait érigés en spécialistes de l'effondrement. Il y a cette idée qu'ils étaient déjà spécialistes en la matière en fait.
Les montagnes vont fondre comme de la cire, c'est ce que disaient les adeptes hein, de ces théories, les attentes ont finalement accouché d'une souris, parce que rien de cet emballement mystique ne s'est produit. Hein. Vous confirmez hein.
Je confirme, j'ai rien noté. Par contre, j'ai vu certaines pirouettes après, récemment d'ailleurs, des gens qui disaient « mais non, il ne s'agissait pas de la fin du monde, mais de la fin d'un grand cycle ».
Ah oui, c'est
Et
ça.
Voilà.
Oui. Et puis certains ont dit que c'était partie remise aussi. Hein.
Oui, et que le calcul était mauvais. Enfin, voilà. On peut toujours s'en sortir.
Ouais. C'est étonnant parce que vous me disiez hors antenne tout à l'heure que c'est très difficile finalement de casser, de déconstruire les mythes. C'est ce que vous faites un petit peu dans ce livre en mettant la science au bon endroit pour nous expliquer via l'archéologie ce qu'est la réalité en tout cas de cette société maya. Vous avez reçu des commentaires inouïs sur les réseaux sociaux, juste parce que vous relatiez, en fait, les travaux scientifiques.
Oui, ça m'a beaucoup surprise, la vigueur des réactions face à quelque chose qui me semblait, en fait, assez anodin et sérieux, en tout cas. Et les gens réagissent immédiatement à cette idée de casser les rêves. Ce qui veut dire que ce rêve, ça peut rendre visiblement même les gens assez agressifs. Donc ces rêveries de monde perdu, de cités cachées et mystérieuses, elles nous ont tellement nourris, en fait. Elles ont tellement nourri nos imaginaires depuis 200 ans, finalement, que c'est devenu notre ailleurs et on n'a pas le droit d'y toucher.
Donc c'était quasiment du wokisme anti-maya.
Oui, c'est le terme qui revient le plus souvent dans
on
les commentaires Facebook. Facebook, c'est woke, oui.
Vous êtes woke parce que vous déconstruisez le mythe maya.
Oui, c'est ce qui est la preuve que woke ne veut vraiment pas dire grand-chose.
Ça, c'est quand même extraordinaire. Des ruines qui sont très prisées par les agences de voyage parce qu'eux aussi ont pris le relais de l'imaginaire hein, pour essayer de façonner ce récit empreint de mystère, de magnétisme. En 1925, un premier hôtel est construit au Mexique et comment il s'appelle cet hôtel ?
Maya World.
Voilà. Maya Land.
Maya Land, oui.
Maya
parce
Land.
Qu'après, oui, voilà.
Exactement. Ça, c'est étonnant parce qu'on se nourrit encore. Voilà, on continue toujours.
Et ça a ensuite donné lieu à tout un consortium d'entreprises, de promoteurs touristiques qui, dans les années 90, ont même choisi volontairement de reprendre cet imaginaire autour des Mayas pour instituer ce monde Maya, cet espace, en une sorte de réservoir, une réservoir de nature et de passé, où le temps se serait arrêté et où le reste du monde est invité à venir se ressourcer des fatigues de la vie moderne. Et cette idée de réservoir, elle a eu aussi un impact en termes de conservation environnementale, puisqu'au même moment, on a à partir des années 90, institué cette idée de forêt maya et on s'est mis à protéger ensemble les ruines et la végétation dans des parcs naturels et archéologiques. Ce qui a aussi provoqué beaucoup de tensions puisque c'est dans des pays, en particulier le Guatemala, où la répartition des terres est particulièrement, parmi les plus inégalitaires au monde, où il y a beaucoup de paysans sans terre, beaucoup d'origine maya, et qui se retrouvent à envahir des parcs naturels et archéologiques maya pour essayer d'y cultiver un lopin de terre.
On va écouter l'extrait de ce reportage de France 2 en 1992 autour de la voix de Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix.
Pour moi, la faim, la misère sont autant de violences. Voir les enfants des rues, seuls, dépourvus de tout, c'est aussi une autre violence. Le prix Nobel de la paix 92, c'est elle, Rigoberta Menchú. Aujourd'hui, la petite indienne Maya devient le porte-parole officiel de plus de 5 millions d'Indiens, mais aussi quelqu'un avec qui il faudra désormais compter.
Chloé Andrieux, c'est la première femme Maya dont la voix a porté si loin.
Oui, c'est actuellement la femme Maya la plus connue au monde. Pour comprendre sa position, il faut remonter un petit peu et bien avoir en tête déjà que, en parallèle finalement à toutes ces mythifications des vestiges et de ce passé grandiose, il y a toujours eu un discours de mépris vis-à-vis des populations qui en descendaient. Et ce décollement entre cette glorification, cette mythification et ce mépris, et il a atteint toute son horreur pendant la guerre civile au Guatemala, qui a fait 200 000 morts, dont 83%.
Entre 1960 et 1996.
Voilà,
hein,
mais le pire étant dans les années 80 et qui a fait donc 83% des victimes sont d'origine maya. Donc Rigoberta Menchú, c'était à l'époque une jeune femme qui a été exfiltrée en France pour faire savoir les horreurs de la guerre. Son récit a donné lieu à un livre qui a eu une portée extraordinaire et qui est à l'origine du fait qu'elle a obtenu en 1992 le prix Nobel de la paix. Après, il se trouve que c'est une femme qui a fait l'objet de beaucoup de critiques suite à ça. Son livre a été repris, des gens ont dit qu'elle avait inventé des informations, faussé d'autres choses. Pour autant, son prix Nobel ne lui a pas été retiré. Mais ça reste étonnant que finalement la femme maya la plus célèbre soit une personne aussi controversée, même
Absolument.
Au Guatemala.
Oui. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire que vous nous racontez justement? Vous dites qu'on a utilisé le passé maya comme une leçon aussi pour nos sociétés occidentales. Qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui?
Oui, c'est finalement le point commun, c'est que les mayas ont toujours servi, pour les sociétés occidentales, comme une sorte de mise en garde contre un danger qu'elles encourraient en fonction des angoisses de chaque époque. Et puis, plus récemment, pour essayer de faire réagir face à la gravité de la crise environnementale qu'on connaît tous. Sauf que ces discours qui se sont constitués, ils ont eu pour effet de nier l'existence des millions de personnes que sont les mayas d'aujourd'hui, qui en plus se trouvent pour certaines être particulièrement impliquées dans les luttes de défense pour l'environnement.
On va passer aux questions pour vous. Felipe nous dit: les mayas de mon village du lac Atitlan, dans le département montagneux de Sololá, c'est dans le Guatemala, vous confirmez, ont été effacés par les évangélistes américains depuis 1950 et les massacres ethniques. Notre langue est en train de disparaître. L'État veut faire uniquement du folklore ethnique et empêcher la culture politique réelle. On peut donner peut-être le nom de la langue, c'est Tutsujil.
Tutujil.
Tutujil. Un commentaire, Chloé Andrieux, sur ce message de Felipe?
Oui, c'est très compliqué. Depuis les accords de paix qui ont été signés en 96, normalement, les Mayas ont droit à être représentés. Ils ont le droit, il y a une certaine institutionnalisation des représentations de ces cultures. Dans les faits, c'est pas du tout le cas. Et puis, par ailleurs, il y a des mouvements religieux comme l'évangélisme, mais qui crée beaucoup de tensions au sein des communautés.
Victoria demande: est-ce qu'on peut comparer la structure de la société maya à celle des polices de la Grèce classique?
Non. Alors, on peut comparer. La comparaison, elle se limite au fait que c'est des cités-états indépendantes qui se font la guerre. Donc là, ça marche. Mais après, les Mayas avaient un système de royauté sacré à l'époque classique, où le roi était totalement divin et il était responsable du bien-être cosmique.
Olivier demande s'il y a un lien entre les Mayas et les Incas.
Aucun.
Parce qu'on mélange tout.
On mélange vraiment
les
tout.
Incas, les
Incas
les
se trouvent au Pérou. Donc ça fait très loin et c'est bien après. Les Incas ont connu l'invasion espagnole.
Ouais. Et puis Anne demande enfin: d'où vient le fait que les civilisations mésoaméricaines, à partir du mythe du don du sang aux dieux, aient poussé si loin le sacrifice humain? Est-ce que ça peut venir de leurs origines ou pas?
Alors, effectivement, le don le sacrifice dans Mésoamérique, c'est quelque chose qui est destiné à maintenir l'ordre du monde, puisqu'il faut sans cesse régénérer, nourrir le temps, les choses, qui risquent de s'épuiser. Ça peut être le sacrifice humain, ça peut être l'auto-sacrifice. Après, les proportions, elles sont souvent fantasmées. Dans le cas Maya, c'est pas ce que l'on croit.
Ouais.
Pas forcément les proportions qu'on peut imaginer, qui sont représentées par exemple dans le film Apocalypto de Mel Gibson, où on voit des amas de corps au-dessus des pyramides. C'est quelque chose de très ritualisé et de très limité.
Merci beaucoup en tout cas Chloé Andrieux. Là, on va pouvoir mettre le tapis de fin de cet entretien. Je renvoie sur ce livre « Les Mayas n'ont pas disparu ». C'est aux éditions Alary. Et merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier. Merci à vous d'être venu nous en parler aujourd'hui au micro de la Terre au Carré.